Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal, à Beni au Nord Kivu, une foire commerciale organisée ce vendredi par l'Association des mamans commerçantes du Congo pour saluer les efforts des héros nationaux Lumumba et Kabila dans la pacification du pays. Une initiative mêlant hommage historique, plaidoyer pour la sécurisation des activités commerciales féminines et promotion de la paix. Suite Kivu, la situation sécuritaire reste préoccupante dans la partie sud de la province. Les combats persistants entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et la rébellion FCM-23 soutenue par l'armée rwandaise fragilisent davantage la région, notamment entre Uvira et Baraka. Dans ce journal, le porte-parole du secteur opérationnel Soukola 2 Sud-Sud nous fait le point sur l'évolution des affrontements. Le gouvernement provincial du Kasaï central lance un projet de lutte anti-érosive à base d'une plante naturelle appelée Juntao, une solution écologique importée de Chine capable de stabiliser le sol en 3 mois. Son partenaire technique, Clément Tchemcham Moutouabou, est notre invité. Bonsoir à tous. D'abord cette information. Un sommet de haut niveau se tient à Lomé ce samedi 17 janvier. Ce sommet, placé sous l'égide de l'Union africaine et la médiation du président togolais Faure Gnassingbé, porte sur la crise sécuritaire en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Objectif, coordonner les différentes initiatives de paix et promouvoir des solutions africaines aux conflits persistants dans l'est de la RDC. Outre les médiateurs togolais, la rencontre réunit de nombreux ministres africains des affaires étrangères ainsi que des envoyés spéciaux des États-Unis et du Qatar. Ce sommet fait suite à la visite du président congolais Félix Tshisekedi à Lomé le 12 janvier pour des consultations bilatérales. Nous le disions tantôt, honneur qui vaut, la mémoire des héros nationaux Emery Patrice Lumumba et Laurent Désiré Kabila a été honorée hier à Beni à travers une foire commerciale organisée par l'Association des mamans commerçantes du Congo, Fédération de Beni. Cette initiative a été l'occasion de saluer leur lutte et de rendre hommage à leurs efforts pour la pacification du pays. Pour ces femmes, la foire constitue également un espace de plaidoyer auprès des autorités pour la sécurisation des activités commerciales féminines, symbolisant la résilience, la paix et l'autonomie des femmes dans le développement national. Marc et Marofimbo nous en dit plus.
C'est l'esplanade de la mairie de Beni qui accueille cette foire en mémoire des héros nationaux Laurent Désiré Kabila et Patrice Lumumba, assassinés respectivement le 16 janvier 2001 et le 17 janvier 1961. À cette occasion, les femmes commerçantes des marchés Kilokwa et Mayangose ont exposé leurs produits dans ce cadre commercial qui, pour elles, représente un lieu de plaidoyer pour la reconnaissance de leur rôle dans la stabilisation de la région de Beni. Espérance Kazi, présidente de l'Association des commerçantes du Congo à Beni, explique.
Aujourd'hui, nous voulons montrer que le commerce peut être un espace de paix et que l'activité économique féminine est une réponse concrète à la violence et à la résilience passée par l'autonomisation des femmes. À travers cette initiative, la MACO porte un plaidoyer clair et responsable pour la sécurisation durable des marchés, pour la protection des femmes commerçantes, pour la reconnaissance du rôle stratégique des femmes dans la stabilisation des Beni, et pour un dialogue permanent entre autorités et acteurs économiques locaux.
La coordination urbaine de la société civile a réitéré le plaidoyer des femmes commerçantes auprès des autorités afin de sécuriser tous les marchés où ces femmes exercent leurs activités pour la paix, l'unité et la résilience économique. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Toujours au Nord Kivu, le gouverneur, le général Évariste Kakule Somo a clôturé ce vendredi une mission de 2 jours à Walikale-Centre, chef-lieu du territoire du même nom, mission dont l'objectif était d'évaluer la situation sécuritaire et économique. Sur place, il y a certes la mine de Bissie, exploitée par Alpha Mine Bissie Mining, et qui figure parmi les 3 plus grandes mines d'étain au monde. Mais pour l'autorité provinciale, cette richesse minière ne peut à elle seule porter l'avenir des Walikale. Le gouverneur plaide pour une diversification de l'économie locale, en misant notamment sur l'agriculture, le commerce et le désenclavement de la zone. Écoutons le général Évariste Kakule Somo dans cet extrait choisi par Martial Papimukeba.
Nous trouvons à Walikale une zone extrêmement riche, mais aussi clé de notre pays. Il n'est pas possible que l'économie repose sur un seul pied, qui est le secteur minier, mais il y a aussi le commerce en général, ce qui implique le développement des réseaux routiers, mais aussi encore l'agriculture. Nous avons discuté avec le partenaire de Alpha Mine pour avoir un accompagnement dans ces 2 secteurs-là, afin que la population de Walikale puisse finalement profiter de ces richesses que Dieu a bien voulu mettre ici dans ce coin de la République, notamment à travers l'agriculture, mais aussi les échanges commerciaux avec les autres provinces et même à l'intérieur du Nord Kivu avec les autres territoires. Je peux vous assurer que, comme je l'ai dit, pour l'instant, nous rentrons satisfaits.
Par ailleurs, au Kasaï-Oriental, l'ONG américaine Ellen Keller International intensifie sa campagne de distribution des semences maraîchères à Lukalaba et à Kasansa, dans le territoire du Tshilenge. Chaque ménage reçoit 50 grammes de semences de tomates et d'amarantes pour renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la région. Les détails avec Esther Ndalafina.
250 ménages répartis en 4 sites, dont notamment Kalonji Sud, Lukalaba, Sangou et Kasansa, bénéficient chacun depuis jeudi dernier de 50 grammes de tomates et des amarantes. Pendant la saison culturelle A, ils avaient bénéficié des semences de maïs, de soja et de niébé. Ces actions rentrent dans le cadre du projet Transformer les vies par la nutrition implémenté dans la région par Ellen Keller International. Jean-Paul Mukadi, point focal de cette organisation, a indiqué que l'objectif est de lutter contre l'insécurité alimentaire.
Nous voulons accroître la sécurité alimentaire. Nous intervenons à la PESIMA, la prise en charge de la malnutrition aiguë. Et à ce moment-là, on devrait également appuyer les ménages dans la sécurité ou avoir la production agricole locale.
Avant la remise des semences, les bénéficiaires ont reçu une formation sur les bonnes pratiques agricoles, notamment la préparation du sol et certaines techniques de culture maraîchère. Esther Ndalafina Bujimai, Radio Okapi.
Nous l'avons dit dans les titres, la partie sud de la province du Sud-Kivu demeure dans une instabilité sécuritaire causée par les combats récurrents entre les forces armées de la RDC soutenues par les Wazalendo et la coalition AFC-M23 et armée rwandaise. Affirmation faite jeudi par le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud au cours d'un point de presse qu'il a animé à Baraka. D'après lui, les affrontements en cours entre les villes d'Uvira et de Baraka fragilisent les tissus sécuritaires dans la région. On écoute le lieutenant Rigen Mbui Kalonji qui donne les détails sur ce qui se passe au front.
180 terroristes RDF M23 AFC ont été neutralisés par les FRDC durant ces 2 jours de combats consécutifs à la hauteur des collines Katongo dans le territoire d'Uvira, Tuetue dans le territoire de Fizi. 22 se sont rendus au FRDC à Makobola juste après les affrontements et 8 autres ont été capturés à Kigongo dans le territoire d'Uvira. Nous avons récupéré plus de 6 armes d'appui. Également, quelques armes collectives comme les AK-47 et les PKM. Nous tenons aussi à préciser qu'en ce moment où je vous parle, les M23 avec les parrains, les forces de défense du Rwanda, sont en train de piller systématiquement les biens de la population, précisément dans la ville d'Uvira. Même les liquides qui servaient à placer les goudrons le long de la route RN5.
Pendant ce temps, à Ituri, 8 personnes enlevées il y a une semaine par des présumés miliciens de Chini Yatuna dans la localité de Balingina, à plus de 60 km de Bunia, ont été exécutés sommairement par leurs ravisseurs. Selon la société civile du Congo, dans le territoire d'Irum qui rapporte les faits ce samedi, la majorité des victimes sont des agriculteurs. Cette structure citoyenne exige des enquêtes minutieuses pour identifier les auteurs de ces carnages afin qu'ils répondent de leurs actes. Plus de détails avec Marcel Kizabiamungu.
Dans les rapports de monitoring, des activistes des droits de l'homme du Romo disent avoir été alertés vendredi par la population de l'exécution sommaire de 8 civils, tous d'une même communauté. Les miliciens de Chiliatuna, actifs dans cette entité, sont pointés du doigt. Parmi les victimes, il y a 3 femmes. Ces défenseurs des droits humains condamnent cette tuerie qu'ils qualifient de crime contre l'humanité. Ils exigent de la justice militaire l'envoi d'une équipe d'enquêteurs à Balingina afin d'établir les responsabilité pour que les auteurs de ces drames soient jugés. Son coordonnateur, Augustin Kasereka.
Que les autorités puissent faire des enquêtes pour savoir les mobiles, la cause réelle de ces exécutions. En tout cas, les membres de la famille n'ont pas si donné exactement les mobiles parce que les victimes étaient exécutées l'une après l'autre.
De notables locaux de Vokutu plaident pour le déploiement des forces de sécurité dans cette entité pour la protection des civils. La milice Tchiliatouna, très active dans la chefferie de Wales et Vokutu, est parmi les 5 groupes armés signataires de l'acte d'engagement d'Aroudé pour la cessation des hostilités. Bougnard, Martial Kizabiamongu, Radio Okapi.
Parlons de la lutte contre la criminalité à Kipushi, territoire situé à une trentaine de kilomètres de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Face à la montée de l'insécurité, l'administrateur du territoire instaure un couvre-feu. Parallèlement, les services de sécurité ont présenté ce vendredi plusieurs présumés bandits aux autorités locales. Le point avec Paul Munanga.
L'administrateur du territoire de Kipushi a signé en début de cette semaine un arrêté portant plusieurs mesures sécuritaires. L'objectif est de renforcer la sécurité de la population. Il s'agit notamment de l'instauration d'un couvre-feu à partir de 22h jusqu'à 5h du matin, l'interdiction des manifestations publiques et des veillées de prière, l'obligation pour les soirées de mariage de prendre fin à 21h. Signalons par ailleurs que les services de sécurité ont présenté 6 présumés bandits à l'administrateur du territoire de Kipushi. Parmi ces personnes, il y a un militaire des FARDC et 2 femmes, précise le bourgmestre de Kipushi. Pour rappel, à la fin de l'année 2025, le territoire de Kipushi était en proie à un regain de la criminalité. Parmi les victimes, un défenseur judiciaire a été tué par des bandits armés non autrement identifiés. Une manifestation a même été organisée pour protester contre la recrudescence de la criminalité. Les manifestants ont appelé les autorités à prendre des mesures urgentes et efficaces pour lutter contre les banditismes urbain. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Santé. En Nord-Kivu, un lot important de médicaments pour les personnes souffrant de tuberculose est arrivé la semaine dernière à Goma. C'est après plusieurs mois de rupture des stocks. Cette rupture prolongée a entraîné des interruptions des traitements chez plusieurs patients, augmentant ainsi le risque de l'échec des traitements et la transmission de la maladie, mais aussi d'apparition des souches de tuberculose résistantes au traitement. Pour le superviseur provincial à la coordination des luttes contre la lèpre et la tuberculose, l'arrivée de ces premiers lots de médicaments va soulager les malades, même si les besoins restent énormes. Explication Rosalie Zawadi.
Dans plusieurs zones de santé à travers la province, on attend avec impatience l'arrivée de ces médicaments. À Massissi, par exemple, 344 cas de tuberculose ont été enregistrés l'année passée, mais le traitement n'a pas été possible, explique Flori Kubuya, infirmier superviseur à l'hôpital général de référence de Massissi.
Imaginez, un patient il arrive, il est diagnostiqué tuberculose positif, mais on donne rendez-vous passer le mois prochain si on aura des intras.
Fidèle Moutaka, superviseur provincial à la coordination des luttes contre la lèpre et tuberculose, annonce l'arrivée la semaine dernière à Goma d'un premier lot important de médicaments.
Nous avons connu une longue période de rupture des stocks en médicaments. Presque toute l'année 2025, on n'a pas trouvé de médicaments. Vers la fin, là, au quatrième trimestre, on a été approvisionné en petite quantité de médicaments qui ont couvert 15% du besoin qu'on avait le début du mois de janvier. On a reçu les médicaments, mais on attend la distribution dans les zones. Les médicaments se trouvent encore au niveau de la Stramesse.
Monsieur Moutaka précise qu'une fois les opérations des déballages et des tris terminées, la distribution sera lancée. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Et en Mbandaka, une campagne d'administration gratuite des soins pour lutter contre les maladies tropicales négligées a été lancée jeudi dans la zone de santé de Wangata par le ministre provincial de la Santé de l'Équateur. Il s'agit notamment de la maladie du sommeil, des filarioses et autres qui sont plus fréquentes dans les milieux ruraux, renseigne le programme national des maladies tropicales négligées dans la province de l'Équateur. Les détails avec le docteur Papi Likua, coordonnateur du programme national des communications et promotion de la santé dans cette province. Il est joint par Askin Zigbiatayoro.
Il y a la stratégie de lutte contre les MTL. Et la stratégie, c'est la chimioprophylaxie et la lutte antivectorielle. Elle consiste maintenant à l'administration préventive des médicaments, ou soit prévenir l'apparition de cette maladie. Étant donné qu'on a déjà identifié les problèmes dans chaque zone, et on disponibilise les médicaments pour que chaque année, on puisse aller distribuer. Ce n'est pas peut-être que non, les gens ne sont pas malades, mais on leur donne gratuitement les médicaments pour prendre comme des cacahuètes non plus. Ce sont des problèmes déjà bien identifiés dans chaque zone de santé, et les stratégies d'élite, c'est la chimioprophylaxie pour protéger cette communauté, pour éviter l'intensification ou bien l'aggravation de la situation. Il y a les années écoulées où j'étais chef de zone à Ingende. Nous avions trouvé un enfant de 8 ans, il est décédé. Mais il y a le verre qui sort de sa bouche. Donc ce sont des problèmes sérieux dans la communauté, mais à un moment donné, nous les négligeons, comme on parle même des maladies tropicales négligées.
Rendons-nous au Kasaï central où les jeunes leaders et influenceurs de Kananga s'élancent dans les travaux d'assainissement de la ville. Ce samedi matin, ils ont balayé la route et débouché les caniveaux. Objectif, rendre la ville propre. Ils s'engagent ainsi à effectuer ces travaux chaque samedi et espèrent que les autres vont emboîter les pas pour rendre salubre leur milieu. André Katendengala Moulumé nous en parle.
Munis de balais et de bêches, ces jeunes s'emploient à balayer la chaussée et à dégager les immondices qui sont dans des caniveaux. Donatien Pimbi, l'un d'eux, précise que les travaux ont débuté dès 6h du matin. Il explique que cette initiative est motivée par le souci de préserver la propreté des routes de la ville, récemment construite mais déjà envahie par des déchets.
Rendre nos rues propres, c'est ça la motivation. Nous avons des routes, mais nous avons remarqué que il y a beaucoup de saletés.
Les passants saluent le travail réalisé par ces jeunes. Albert Chondo les encourage à poursuivre sur cette lancée.
On a trouvé très bon parce qu'on améliore notre ville. Ça c'est encourageant. Il faut qu'ils continuent comme ça avec ce travail.
Donatien Pimbi rassure que ces travaux se poursuivront de manière régulière chaque samedi. Il invite par ailleurs les autres jeunes à se joindre à cette initiative afin de faire rayonner la ville de Kananga. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Présidentielle en Ouganda, selon les résultats finaux annoncés ce samedi 17 janvier, Yoweri Museveni est réélu avec 71,65% des voix contre 24,72% pour son principal opposant Bobi Wine à l'issue du scrutin du 15 janvier dernier. Le président Yoweri Museveni, 81 ans, donc 40 ans déjà passé au pouvoir, briguait un septième mandat consécutif et est donc réélu pour 5 ans supplémentaires à la tête de l'Ouganda.
L'invité.
Le gouvernement provincial du Kasaï central a lancé mercredi le projet de lutte anti-érosive basé sur l'utilisation d'une plante naturelle appelée Juntao pour lutter contre les têtes d'érosion à Kananga. Clément Tchemcha Mamuntoabou, partenaire technique de ce projet, indique que les racines de cette plante originaire de Chine stabilisent le sol en 3 mois. Clément Tchemcha Mamuntoabou s'entretient avec André Katende Ngalamoloumé.
Monsieur Clément Tchicham Moutouabo, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Aujourd'hui, vous venez lancer une activité. De quoi il est question?
Il est juste question de lancement du projet de lutte anti-érosive sur base d'une plante naturelle, Juntao, qui est une invention chinoise pour éradiquer à 98% des érosions sur la ville de Kananga. C'est une plante qui a beaucoup de vertus, mais pour le premier, nous avons pris un seul vertu qui consiste à éradiquer les érosions. Parce que notre sol étant mouvant, il est en train d'être emporté par les eaux de pluie. Nous avons dit, avec beaucoup de technologies, on a dépensé beaucoup de millions en termes de dollars avec la construction des buses, des caniveaux, avec les dépenses en termes de beaucoup de millions de dollars pour acheter les ciments, les graviers, les moellons, les fers à béton. Malgré ça, le sol n'est pas stabilisé. Mais ce que nous faisons, c'est pour stabiliser net le sol. Pour 3 mois, c'est une plante qui a 9 mètres de profondeur avec des racines comme des nattes. En bas, là-bas, ça bloque net le sol. On va remblayer, on plante encore, on récupère le sol que l'on peut encore utiliser éventuellement. On construit une maison, une école qui est emportée par les eaux de pluie.
Combien de têtes d'érosion sont concernées par ces projets?
Bon, pour la ville de Kananga, la province, c'est le lancement officiel. Néanmoins, on avait une expérience. Quand vous êtes dans la résidence des derniers de la SNTC, la maison était menacée de disparition par l'érosion. On a stabilisé ça net. Aujourd'hui, là, ils sont en paix. C'est stabilisé, mais comment ça construit dessus?
Il y a déjà des projets de lutte anti-érosive au niveau de la province qui sont même déjà lancés. C'est notamment le projet PURIC. Et aujourd'hui, vous apportez les projets Juntao. Comment allez-vous vous y prendre?
Juntao, c'est une spécialité à part entière. Par contre, ce qu'ils ont fait là, vous parlez aux gens de penser de l'argent. Juntao ne demande pas l'argent. Juntao demande seulement les peu de moyens pour l'achat des boutures, les ramener ici et planter, c'est fini. Et maintenant, quand on a planté comme on a fait là, c'est à eux maintenant d'aller voir avec les fonds qu'ils ont là. Pour de commencer à construire les caniveaux, ramener l'argent là pour commencer à rembler les ravins dans lesquels on a planté le Juntao pour récupérer le sol. Juntao aide à récupérer le sol. C'est qu'il faut construire, ne récupère pas le sol. Nous, on récupère le sol et aussi on peut éventuellement construire ce sol-là. Ça, l'avantage et la différence. Donc, eux-mêmes, ceux qui font là-bas, ils ont comme besoin de Juntao parce que dans l'avarie urbaine qu'ils font là-bas, avec génie civil, pour protéger le sol à côté de ce qu'ils ont construit, il faut planter, il faut stabiliser ce sol-là. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ont construit un caniveau. Après un temps, il y a plus de jeunes qui arrivent. Pape s'emporte dans les caniveaux. Mais d'une taille, quand c'est planté, même à côté de ceux qui l'ont construit là, c'est stabilisé, il n'y aura pas de dégâts. C'est l'avantage que nous avons.
Vous avez dit que ça, c'est l'étape pilote. Qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours à venir?
Bon, on doit inventorier les ravins dans la province. Il y en a près de 800. Néanmoins, on nous a dit que il y en a qui sont pris en charge par les projets publics. Nous allons voir avec eux, parce qu'ils sont loin de nous, pour protéger les sols. Quand ils sont construits là-bas, à côté, là, ils n'ont rien fait. Quand le pluie viendra, il va emporter encore les sols. Nous plantons notre plante là, à côté, là, il n'y a pas de dégâts. Et nous, l'avantage, c'est quoi? De récupérer d'abord les sols. On récupère les sols, et on peut, vous avez produit votre parcelle, par exemple. N'est-ce pas, emporté par la pluie. Et maintenant, quand nous plantons les juntaou, et on remblaye, on replante encore, on a mis les sols à la même hauteur, à la même surface, et vous pouvez récupérer votre parcelle là, et vous construisez les sols.
Quel message vous lancez à la population de la ville de Kananga?
À la population, nous demandons l'accompagnement. Juntaou, c'est une plante qui demande beaucoup d'eau. Je pense que nous sommes au mois de janvier, après, nous aurons une petite saison sèche. Là, il faut arroser partout où nous avons à planter. Que la population nous accompagne, qu'ils ne voient pas que ce sont des histoires qui doivent être laissées à elles-mêmes. Nous ne serons pas chaque jour, mais la population doit nous accompagner. Nous venons planter. Quand vous êtes là-bas, arroser seulement, ça ne coûte rien. Et maintenant, quand ça atteint 3 mois, vous allez voir que si c'est à côté de la maison, là, c'est déjà stabilisé. Maintenant, on va maintenant couper. Maintenant, on remblaye les ravins là. On plante encore, on remonte jusqu'à arriver à la hauteur, la surface du sol normal. Et vous récupérez votre parcelle.
Comme Juntaou est une plante, il y a possibilité de multiplier les boutures. Avez-vous pensé à la population pour pérenniser cette lutte?
Nous avons sollicité un espace au niveau du gouverneur pour nous donner au moins 20 hectares où on peut planter, avoir un parc à bois qui sera là pour aider tout le monde. Comme ça, quelqu'un qui a besoin de ça, il peut aller là-bas. Ça sera déjà une autonomie. Comme ça, même dans votre parcelle.
Nous vous disons merci.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Notre invité était avec André Katende. Par ici s'achève ce journal, mis en onde par Jean-Claude Nsiala, Mwana Makengo Nsoalou, coordination Jude Mister Bilanda et supervision Jean-Gandu Kabongo. À la présentation, grâce à Mzati Masanzi. Merci de nous avoir suivis et excellent week-end chez vous en compagnie des programmes de Radio Kapi.